OK, on va commencer notre 37e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va regarder les réformés en France depuis la mort de François Ier, donc qui a eu lieu en 1547, jusqu'à l'édit de Nantes en 1598. Et on va voir que ce soir, une des choses importantes qu'on va regarder, c'est comment le complot pour en arriver à la Saint-Barthélemy, le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, où il y a eu 70 000 morts, pas seulement à Paris, mais dans l'ensemble de la France. C'est épouvantable. Quand on lit ça, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête. Alors, on poursuit notre étude sur les principaux événements de la Réforme en France, et plus particulièrement entre les années 1547 et 1598. Alors, après François Ier, son fils Henri II monta sur le trône. À la suite de celui-ci, régnèrent successivement ses trois fils, François II, Charles IX et Henri III, et enfin Henri IV, roi de Navarre, soit six souverains en 63 ans. Donc, entre la période de 1547 à 1610, on ne peut pas dire que c'était un royaume très stable. Alors, sous les quatre premiers de ces princes, la France traverse une des périodes les plus sombres de son histoire, marquée par les guerres de religion. Henri IV rétablit l'ordre et la paix en promulguant le célèbre Édit de Nantes en 1598. Celui-ci assure aux réformés des avantages importants qu'ils ne conservent du reste pas longtemps. Richelieu, déjà, leur en enlève plusieurs. Toutefois, l'édit subsiste nominalement. Les réformés ont au moins droit à l'existence jusqu'à ce qu'en 1685, Louis XIV leur enlève brutalement tout ce que son grand-père leur avait octroyé. Comme on l'a vu plus haut, les réformés se laissèrent aller à nouer des alliances politiques avec des partis hostiles à la royauté, celui des nobles tout particulièrement. Cherchant ainsi de l'appui auprès des hommes, acceptant avec empressement celui qu'on leur offrait volontiers, car on appréciait hautement leur sûreté morale, à une époque où les valeurs de cet ordre ne comptaient plus guère, les réformés acquirent de la puissance matérielle, mais perdirent du même coup le sentiment de leur dépendance vis-à-vis du Seigneur. Alors on voit qu'encore une autre fois, quand les chrétiens se mêlent de politique, ça va tourner au vinaigre encore une autre fois. Ils connaissent pourtant ces mots du psaume 146, versets 3, 5 et 7. « Ne vous confiez pas dans les principaux, dans un fils de l'homme en qui il n'y a pas de salut. Bienheureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui s'attend à l'Éternel son Dieu, qui exécute le jugement en faveur des opprimés. » Par la force des choses, les alliances qu'ils contractèrent déchaînèrent des conflits à main armée, ce qui prouve surabondamment la gravité de l'erreur qu'ils commirent. Comme toute guerre civile, ces luttes religieuses amenèrent un déploiement d'horreurs sans nom. La France presque entière fut mise à feu et à sang. Pas plus que leurs adversaires, les réformés ne manifestèrent la moindre tolérance, la moindre commisération à l'égard de ceux qui ne partageaient pas leurs opinions. Le 16e siècle, il faut le dire, ignorait totalement ces notions si répandues aujourd'hui. Néanmoins, les réformés avaient dans leurs mains la parole de Dieu qui dit « Si celui qui te hait a faim, donne-lui du pain à manger, et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car tu entasseras des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. » Trop fréquentes furent les scènes hideuses de dévastation et de carnage avec le plus lamentable spectacle de population entière, tristes débris d'affreux massacres, errant de ville en ville et de canton en canton, chassés de leur demeure et n'en trouvant pas d'autre. On reconstituait l'itinéraire que ces malheureux avaient suivi aux monceaux de cadavres qui jalonnaient les chemins. Catholiques et protestants faisaient preuve de la même férocité, combien éloignés de l'exemple donné par le prince de paix. Deux hommes en particulier s'acquirent un sinistre renom de cruauté. Le catholique Montluc et le protestant des Adrets. Les garnisons égorgées tout entières, les puits comblés de corps humains, les arbres des chemins utilisés comme gibets marquaient partout la trace de Montluc. Quant à des Adrets, on raconte, entre autres, qu'après la prise d'une ville, il fit couper la tête à la moitié des défenseurs de la place et força les autres à se précipiter du haut d'une tour sur les pointes des piques de ses soldats. L'un d'eux hésitait. « Tu te reprendras deux fois, lui cria des Adrets. « Et, monseigneur, répliqua le malheureux, je vous le donne en 10. » Il fut, dit-on, le seul qui obtint grâce. Une partie de la noblesse tenait pourtant pour la royauté à qui elle allait faire payer cher son appui. Les chefs de ce groupe appartenaient à la famille des De Guise, bien connus par la haine implacable qu'ils vouaient à quiconque se réclamait du nom du Seigneur. À leur côté, il faut nommer la reine-mère, Catherine de Médicis, femme d'Henri II, qui exerça sur ses trois fils l'influence la plus néfaste. En tant qu'Italienne, elle s'adonnait volontiers aux arts magiques, à la sorcellerie, à l'astrologie, dont sa patrie était l'un des plus ardents foyers. Nièce du pape Clément VII, dont elle connaissait et partageait la haine contre toute innovation religieuse, elle n'eut pas de peine à attiser celle que son royal époux avait apprise à l'école du précédent monarque. Les réformés étaient à ce moment-là en nombre. On évalue leur effectif à environ le sixième de la population de la France. Ils comptaient dans leur rang l'élite du pays, gens de lettres, juristes, soldats, jusqu'à des hommes qui avaient appartenu autrefois à l'Église romaine. Malgré tout, ils restaient faibles, faute de ne pas s'en tenir strictement aux enseignements de la parole de Dieu. Ils se réunissaient régulièrement, mais pas pour la fraction du pain, cela sous l'influence de Calvin, qui ne voulait pas que la scène fût distribuée autrement que par des pasteurs officiellement institués. De la sorte, ils méconnaissent la promesse du Seigneur que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Au lieu de réaliser l'unité du corps de Christ, ils ne constituaient que des groupements isolés les uns des autres et se privaient ainsi de la joie qu'il y a pour les chrétiens à rappeler la mort du Seigneur selon son désir en rompant le pain et à célébrer ensemble son amour pour ses rachetés. Mais il y avait parmi les réformés des hommes d'élite. En toute première ligne, l'amiral de Coligny, appelé à un poste de premier rang dans l'armée du roi, il déploya dans maintes occasions les plus rares talents militaires et n'eut jamais en vue que l'indépendance et la prospérité de son pays. À ses fins, il sacrifia tous ses intérêts personnels. Fait prisonnier à Saint-Quentin par les Espagnols, il fut conduit au fort de l'Écluse, non loin de Genève, puis à Gand. Durant sa captivité, Coligny lut avec fruit la Bible et plusieurs écrits sur les graves questions qui agitaient alors la chrétienté. L'indomptable patience des réformés, jetés sur les bûchers ou abandonnés dans d'immondes cachots, inspira une vive sympathie à son âme généreuse. Une fois rendu à la liberté, il professa hautement sa foi en l'œuvre accomplie de Christ pour lui, comme pour les pécheurs qui mettent leur confiance en lui. La profondeur et la sincérité de ses convictions, son caractère intrépide, son ardent désir de servir le Seigneur en toute fidélité, sa prudence calme, ses mœurs pures, éloignées du faste et des désordres de la cour, tout cela faisait de la figure de l'amiral de Coligny une des plus nobles que nous offre l'histoire de France. Si l'on aime à placer côté de lui, quoiqu'il se trouve dans le camp opposé, Michel de l'Hôpital, homme éminent, magistrat intègre, qui, tout en demeurant attaché à la foi catholique, n'en fut pas moins favorable aux réformés et rêva la tolérance dans un siècle de persécution. Henri II inaugura son règne en faisant brûler 4 huguenots le jour de son avènement. Malgré tout, la réforme continua à gagner du terrain. Ainsi, les rigueurs redoublèrent. Par l'édit de Chateaubriand, le roi ordonna que le crime d'hérésie devait être recherché par les juges civils tout autant que par les juges ecclésiastiques. Si donc les accusés étaient acquittés par les uns, ils ne manqueraient pas d'être frappés par les autres. De plus, les dénonciateurs devaient recevoir non pas le quart des biens des condamnés, mais le tiers, à part jeté à la cupidité, au fanatisme. Bien plus, les propriétés des émigrés pour cause de religion seraient confisquées au profit du roi. Interdiction formelle décrite aux fugitifs de leur envoyer quoi que ce soit, en particulier de l'argent. Enfin, l'édit ajoutait ce qui suit. Il ne sera imprimé ni vendu aucun livre concernant la Sainte Écriture fait depuis 40 ans en ça que premièrement il n'ait été vu et visité. Comme en notre ville de Lyon, il y a plusieurs imprimeurs et qu'ordinairement, ils s'y apportent grand nombre de livres étrangers, même de ceux qui sont grandement suspects de l'hérésie, nous ordonnent que 3 fois l'an, il sera fait des visites dans les officines et boutiques d'imprimeurs, marchands de livres, par 2 bons personnages d'Église. Mais, comme le dit Timothée 2, chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu n'est pas liée. Elle est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants. Henri II dut s'en rendre compte. Aveuglé par sa femme, entraîné par ses mauvais conseillers, il convoqua une séance spéciale du Parlement de Paris où chacun des conseillers eut à mettre séance tenante son avis sur les mesures à prendre contre ce qu'ils appelaient les novateurs. La plupart recommandèrent de renforcer les pénalités établies, mais il se trouva 2 hommes pour émettre une opinion différente. Le conseiller Faure alla jusqu'à dire en face du roi, « Craignez qu'on ne dise de vous cette parole adressée jadis par Élie à Achab. C'est toi et la maison de ton père qui troublez Israël. » Henri II frémit de rage, mais il se contint. Là-dessus, Anne Dubourg, un des plus jeunes conseillers, prit à son tour la parole. Son visage demeurait calme, mais sa bouche allait articuler des vérités qui soulevèrent une violente tempête. « Il est des hommes, dit-il, qui commettent contre les lois plusieurs crimes dignes de mort, des blasphèmes, des adultères, des débauches de toute espèce, et ces crimes restent impunis malgré leur énormité, tandis qu'on demande des supplices contre des gens à qui l'on ne peut reprocher aucun crime. » C'était lancé, sans le vouloir peut-être, un trait contre le roi lui-même, dont la vie adultère était assez connue. Le fidèle conseiller continue. « Peut-on en effet imputer la crime de lèse-majesté à des hommes qui ne font mention des princes que dans leurs prières et pour appeler sur eux la protection du Très-Haut? On sait parfaitement qu'ils ne sont pas séditieux, mais on affecte de les regarder comme tels, parce que, s'appuyant sur les Saintes Écritures, ils ont arraché tout prestige à la puissance romaine et exposé au plein jour la turpitude d'une Église qui penche vers sa ruine. Parce qu'enfin, ils demandent de salutaires réformes qui seules peuvent ramener l'Église à sa dignité primitive. Blessé au vif, foulant aux pieds l'inviolabilité du Parlement, Henri II fit aussitôt saisir Faure et Dubourg et les jeta à la Bastille. Quelques mois plus tard, ce dernier subissait le supplice du feu. Dans sa rage, Henri II s'était promis d'assister à l'exécution. Dieu lui-même le lui interdit. Au cours d'un tournoi, un de ses courtisans l'atteignit à l'œil d'un coup de lance. On le transporta dans son palais, souffrant horriblement. le mal ne fit qu'empirer. Aux douleurs physiques s'ajoutaient les remords cuisants. « Ils sont innocents », s'écriait l'infortuné souverain en songeant aux deux conseillers. « Dieu me punit de les traiter si mal. » « Rassurez-vous, sire, lui dit le cardinal de Lorraine, un de ces Guises qui furent le fléau de la France. « Rassurez-vous, de telles pensées ne sont que des suggestions du démon. » Tout l'art des médecins fut inutile. Au bout d'un mois, Henri II expirait, laissant le trône à son fils François II, un enfant de 16 ans. Sous son règne, comme sous ceux de ses deux successeurs, le caractère politique des guerres de religion ne fit que s'accentuer. Il ne saurait entrer dans notre dessein de les raconter en détail. Pour les réformer, elles sont marquées par des alternatives de succès et de revers. À peine leur a-t-on accordé certains avantages qu'on les leur retire, d'où renouvellement continuel des hostilités. Charles IX leur octroie l'édit de janvier, suivi de l'horrible massacre de Vassy, perpétré à l'instigation du duc de Guise. Mais celui-ci ayant été assassiné, à la satisfaction de Catherine de Médicis, qui redoutait son ambition, la reine-mère consentit à signer la paix d'Amboise, puis celle de Saint-Germain. Les réformés obtenaient la liberté de conscience et l'autorisation de célébrer le culte domestique. Mais le culte public n'était toléré que dans quelques villes et dans les maisons de la noblesse. Mais Catherine était de ces ouvriers d'iniquité qui parlent de paix avec leurs prochains, tandis que leur méchanceté est dans leur cœur, comme on le lit dans le psaume 28, verset 3. Ces concessions n'étaient à ses yeux qu'un leurre, destiné à endormir les huguenots, afin de leur fondre dessus, avec d'autant plus de succès. Elle n'avait qu'un but en vue, l'extermination de tous les réformés jusqu'au dernier. Animée d'un esprit diabolique de dissimulation, elle travaillait à réaliser son désir en y mettant une persévérance extraordinaire, prête aussi à recourir à tous les moyens, même les plus pervers. On l'a comparée à bon droit à un requin qui suit le navire dans l'attente de sa proie, que la mer soit calme ou qu'elle soit agitée. Le royaume était en effet divisé en deux camps, égaux en apparence et irréconciliables. Malgré plusieurs campagnes, les catholiques n'avaient aucune perspective de venir à bout de leurs adversaires. C'est alors que Jézabel reconnut au procédé qui lui était cher entre tous, la trahison et le meurtre secret. Les historiens les plus sérieux affirment sans hésitation que la raison d'État ne saurait en aucun cas être invoquée pour justifier le massacre de la Saint-Barthélemy. Rome n'avait rien à redouter pour sa suprématie, ni le roi de France pour son autorité. Il ne faut y voir qu'un acte dicté par le fanatisme, par le ressentiment que nourrissait Catherine à l'égard des enfants de Dieu. À ses côtés se trouvent le pape Pie II et Philippe II, roi d'Espagne. Ce sont trois étrangers qui portent la responsabilité première de cette machination inique. D'autres y trempèrent, mais ils ne pouvaient rien faire aboutir sans la sanction royale. Le souverain pontife tordit les Écritures pour persuader à Charles IX qu'il se trouvait dans la même position que Saül, roi d'Israël, lorsque Samuel lui enjoignit de la part de l'Éternel de détruire entièrement Amalek. Il se servait du verset de 1 Samuel 15, verset 3. Mais Saül désobéit à l'ordre divin et lui en coûta son trône et sa vie. Charles IX comprit l'allusion et consentit à ce que l'on exterminât tous les huguenots afin qu'il n'en restât pas un seul pour lui reprocher son forfait. Grâce au traité de Saint-Germain, les réformés jouissaient de quelques repos. Catherine et ses suppôts en profitèrent pour ourdir mieux leur complot. Attirer à Paris les chefs huguenots, les combler de caresses pour les massacrer tous à la fois. Voilà le plan infernal déjà conçu en 1564 et différé jusqu'au moment propice. Le vieux chancelier Michel de l'Hôpital soupçonna, puis eut la certitude de ce qui se tramait contre les réformés. Retiré des affaires avec le sentiment de son impuissance à faire naître une paix durable, il supplia la cour de ne pas étouffer la voie de la justice et de la clémence. Mais Coligny, trop droit pour croire à une infraction au traité de paix et à de vils guet-apens, se laissa émouvoir par l'accueil affectueux que lui fit le roi en l'appelant son père. Charles IX lui promit de réparer certains torts qu'avaient subis les réformés de la part des catholiques trop zélés. Pour mieux donner créance à ses allures hypocrites, Catherine de Médicis mit tout en œuvre pour amener le mariage de sa fille Marguerite avec Henri de Navarre, plus tard roi de France sous le nom de Henri IV, et fils de Jeanne d'Albret. Celle-ci, douée d'un caractère ferme et décidé, avait fait profession publique de sa conversion et, grâce à elle, les pratiques catholiques furent abolies en Navarre. Si l'on considère que ce petit royaume se trouvait sur les flancs des Pyrénées, entre la France et l'Espagne, deux puissances entièrement dévouées au pape, on conviendra que Jeanne montra là un beau courage, en même temps qu'une admirable confiance en celui auquel elle voulait rendre témoignage envers et contre tout. Malgré les menaces terribles qu'on lui adressa, elle n'en persévéra pas moins dans la voie où elle était entrée si résolument. Pendant 12 ans, le Seigneur la protégea puissamment et elle mit ce temps à profit pour faire traduire et publier la Bible dans le dialecte du pays. Elle créa des écoles, étudia les lois comme un juriste et améliora de façon très intelligente le bien-être de ses sujets. Quoiqu'à regret, elle donna son consentement au mariage projeté. À cet effet, elle rendit visite à la cour de France qui résidait alors à Blois. Le roi et sa mère lui prodiguèrent toutes les marques de l'amitié et l'engagèrent à prolonger son séjour auprès d'eux. Mais Jeanne s'y refusa. Elle devait, disait-elle, se rendre encore à Paris. Après quelques jours, elle tomba malade de façon très mystérieuse, infectée, à ce qu'on croit, par des gants empoisonnés que lui avait remis un certain maître René, parfumeur florentin, mais connu surtout comme l'empoisonneur de la reine. Au bout de 5 jours, Jeanne d'Albret s'endormit paisiblement dans le Seigneur, sans la moindre parole de reproche à l'adresse de ses meurtriers. Le mariage fut célébré le 18 août 1572, au milieu de fêtes splendides qui durèrent plusieurs jours et auxquelles participèrent tous les princes huguenots. Personne n'éprouvait la moindre anxiété. On pensait que cette union mettrait fin aux troubles qui avaient ensanglanté le pays. Elle semblait inaugurer une ère de paix et de prospérité sans pareil. Or, c'est au cours de ces réjouissances que se tint au Louvre un conseil secret dans lequel on arrêta dans ses moindres détails le plan du massacre projeté. Le 22 août, Coligny sortait du Louvre. Il ignorait qu'on venait de mettre sa tête à prix. 50 000 couronnes, telle était la récompense que toucherait le meurtrier. Chemin faisant, l'amiral lisait une requête d'un de ses frères dans la foi et allait s'occuper de la meilleure voie à suivre pour y répondre. Tout à coup, près de l'église Saint-Germain, l'Auxerrois, une balle atteignit Coligny au bras gauche et lui fracassa un doigt. L'assassin réussit à prendre la fuite. On transporta l'amiral chez lui et les seigneurs protestants accoururent à son chevet. « Voilà, leur dit le vieillard, le fruit de cette belle réconciliation dont le roi s'est porté garant. » Malgré l'opposition de sa mère, Charles IX se rendit aussi auprès de l'illustre blessé. « Mon père, lui dit-il, je vous tiens pour un des plus grands capitaines de mon royaume. Calmez-vous, ne songez qu'à guérir, j'aurai soin de tout. Vous endurez la blessure et moi, j'en aurai toujours la peine. » 2 jours plus tard, le 24 août 1572, entre 2 et 3 heures du matin, jour de la Saint-Barthélemy, on entendit tout à coup sonner la cloche de cette même église de Saint-Germain-l'Auxerrois qui se trouve vis-à-vis du Louvre. À peine les premiers coups eurent-ils retenti qu'une violente fusillade éclata dans les rues. Charles IX témoigna une vive agitation. La sueur froide perlait sur son front. Soudain, il se leva et fit appeler le duc de Guise pour lui ordonner de ne rien précipiter. Mais c'était trop tard. Catherine de Médicis, qui redoutait l'inconstance de son fils, avait enjoint d'avancer l'heure fixée pour le service de la tuerie. Et bientôt, au bruit de toutes les cloches de la ville, maintenant mises en branle, se mêlaient des hurlements de rage, les imprécations des meurtriers, puis les cris de douleur et d'effroi des infortunées victimes surprises dans leur sommeil et froidement égorgées dans leur lit. Pour se faire reconnaître, les assassins portaient un brassard blanc. Bientôt, le sang ruissela dans toutes les rues. L'amiral de Coligny devina bien vite ce qui se passait. Il ne doutait pas qu'on en voulût à lui plus qu'à tous les autres huguenots, car il connaissait la haine invétérée que lui portait le duc de Guise. Il ne se trompait pas. Une troupe furieuse envahit sa demeure, dirigée par un serviteur du duc, et pénétra dans la chambre où l'amiral reposait. Sans autre avertissement, le soudard plongea un épieu dans la poitrine du vieillard, puis jeta son corps par la fenêtre. Guise le reconnut et le repoussa d'un coup de pied. 16 ans plus tard, le même Henri de Guise tombait à son tour sous le poignard d'un assassin aux ordres du roi Henri III. Quand celui-ci vit le cadavre, il lui donna un coup de pied en pleine figure. Telle est la justice rétributive de Dieu. Au cours de la même nuit, sous le couvert de la religion, on égorgea 500 membres de la haute noblesse protestante. Ils habitaient presque tous le même quartier de Paris et le duc de Guise se l'était spécialement réservé. Plus l'herbe est épaisse, plus la foule y mord. Voilà le mot d'ordre donné à la farouche soldatesque. Henri de Navarre et Condé, fils du célèbre Condé, tué à Jarnac, logeaient au Louvre. Le roi les manda devant lui et les accabla d'injures. « Je ne veux, leur dit-il, qu'une religion dans mon royaume, mort ou messe. Choisissez. » Henri fut conduit dans la chapelle du palais. Condé déclara que sa liberté, sa vie, était à la merci du roi, mais que nulle menace, nul supplice ne le ferait aller à la messe, dut-il périr. Charles le relâcha en affirmant qu'il aurait la tête tranchée dans les 8 jours s'il ne se ravissait pas. Quelques seigneurs protestants s'étaient réfugiés au Louvre sous la sauvegarde du roi de Navarre. Ils furent sommés, l'un après l'autre, de descendre dans la cour et là, sous les yeux même du roi, les gardes les taillèrent en pièces jusqu'au dernier. L'un d'eux ne put s'empêcher de s'écrier « Est-ce là cette parole que le roi nous a donnée? Que Dieu venge un jour cette perfidie et cette cruauté odieuse? » La réponse vint 220 ans plus tard avec la mort de Louis XVI. Les annales du monde entier renferment peu de scènes aussi ignobles que celles de la Saint-Barthélemy. Les passions les plus basses, le fanatisme le plus froid et le plus atroce s'y étalent dans toute leur horreur. C'était être huguenot, dit Mézeray, que d'avoir de l'argent ou des charges enviées ou des ennemis vindicatifs ou des héritiers affamés. Le massacre s'étendit à toute la France. Des milliers d'innocents périrent, à Lyon en particulier, où les réformés étaient nombreux. Comme le procureur du roi enjoignait au bourreau de remplir son office, celui-ci répondit « Je ne prête mon ministère que pour l'exécution des arrêts des juges et non pour assassiner des innocents. » Même réponse de la part des soldats de la citadelle. Ce que vous nous demandez est contre l'honneur. Nous ne sommes pas des assassins. Quel mal ont fait donc ces malheureux pour qu'on veut que nous les égorgions? On alla jusqu'à ouvrir les portes des prisons et à massacrer sans autre ceux qui s'y trouvaient. Les cadavres étaient jetés dans le Rhône qui en vint à rouler des flots rougis de sang. Pendant longtemps, les riverains ne voulurent ni toucher aux poissons du fleuve, ni faire usage de son eau. Quelques gouverneurs de province refusèrent d'obtempérer aux ordres féroces qu'ils reçurent. Il convient de citer aussi l'évêque de Lisieux, Jean Henuyer, qui en fit autant. « Je m'opposerai toujours de toutes mes forces à une action pareille », déclara-t-il nettement au lieutenant royal. « Je suis le pasteur de Lisieux et ces gens que vous voulez me faire tuer sont des brebis de mon troupeau. Si elles se sont égarées hors du bercail de l'Église romaine, j'ai le devoir de les épargner pour les faire rentrer si possible. Je n'ai jamais lu dans l'Évangile que le berger doit laisser verser le sang de son troupeau. Au contraire, j'y lis qu'il doit verser son sang, donner même sa vie pour elle. » Sur la demande du lieutenant royal, l'évêque confirma ses paroles par écrit. Les appréciations sur le nombre des victimes varient beaucoup. À Paris, on en a compté de 2000 à 4000. C'est Brantôme qui dit que Charles IX aurait pu voir 4000 cadavres flotter sur la Seine. Dans un registre des comptes de la ville de Paris, un poste indique la somme payée aux fossoyeurs du cimetière des Innocents pour avoir enterré 1100 corps échoués sur la rive du fleuve à Chaillot, à Auteuil et à Saint-Cloud. Il est probable, ajoute le greffier, que beaucoup d'autres furent entraînés plus loin. On est loin de les avoir tous jetés à la Seine. En province, les chiffres les plus modérés annoncent 70 000 morts, si l'on ajoute tous ceux qui périrent de misère, de faim, de douleur, les vieillards, les enfants abandonnés, les femmes sans abri, on arrive à un total bien plus considérable. La nouvelle du massacre de la Saint-Barthélemy produisit une profonde impression dans l'Europe entière. Tandis que les États protestants flétrissaient l'horrible attentat, Rome était au comble de la joie. Le pape Grégoire XIII connaissait les projets de Charles IX et attendait impatiemment des nouvelles. Enfin, un messager arriva de Paris portant une lettre du nonce datée du 24 août. Tout s'est bien passé à Paris. On va en faire de même pour tout le royaume. Le messager reçut une gratification de 1000 pièces d'or. Le canon tonna au château Saint-Ange. On chanta à Saint-Pierre un Te Deum solennel et le pape fit frapper une médaille portant d'un côté son effigie et de l'autre l'ange exterminateur immolant les hérétiques. Le roi d'Espagne, Philippe II, dont on connaissait le caractère sombre, rit pour la première fois de sa vie, dit-on, quand on l'informa du massacre et ne put trouver d'éloge assez fort pour le jeune roi et sa mère. L'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, Genève surtout, virent arriver une multitude de fugitifs éperdus, à demi-morts. Vainement, les agents français tentèrent d'accréditer auprès des cours protestantes la fable d'un complot ourdi par Coligny. L'audience donnée à ce sujet par Élisabeth, reine d'Angleterre, fut empreinte d'une tristesse lugubre. Toute la cour portait de longs vêtements de deuil, l'ambassadeur du passé parmi les courtisans sans que personne ne le saluât. Il ne put balbutier son odieuse apologie et se retira, consterné, en s'écriant avec amertume qu'il avait honte de porter le nom de Français. À Genève, on institua un jour solennel de jeûne et de prière. En Écosse, le vieux Knox, empruntant le langage des prophètes, s'écria du haut de la chaire. La sentence est prononcée contre ce meurtrier, le roi de France, la vengeance de Dieu ne se retirera pas de sa maison. Son nom sera en exécration à la postérité. Ces paroles se réalisèrent. Le remords ne tarda pas à envahir l'âme de Charles IX. La nuit, il entendait des hurlements sinistres dans le ciel au-dessus de son palais. À tout moment, aussi bien veillant que dormant, il lui semblait voir ses corps massacrés, les faces hideuses et couvertes de sang. Il cherchait à s'étourdir, à se briser de fatigue. Il restait à cheval 12 et 14 heures consécutives. Ses regards, écrivait un ambassadeur, sont devenus sombres. Dans ses entretiens et ses audiences, il ne regarde pas en face celui qui lui adresse la parole. Il baisse la tête, ferme les yeux, puis il les ouvre tout à coup, comme s'il souffrait de ce mouvement. Il les referme avec non moins de vivacité. Il expira moins de 2 ans après le massacre, atteint d'une maladie étrange qui amenait son sang à s'écouler lentement par tous les pores. Mais, sans confiance aucune dans son entourage, il se figurait que sa mère avait été cause de sa maladie en lui faisant administrer un poison. Dieu permit que sur son lit de mort, ce roi qui avait voulu que pas un réformé ne restât en vie fût soigné par sa vieille nourrice et un médecin, huguenots l'un et l'autre. La veille de sa mort, la nourrice se trouvait seule à son chevet. Elle entendit le malheureux qui soupirait et pleurait. Elle s'approcha doucement. « Ah, ma nourrice, mamie, lui dit-il, que de sang et que de meurtre. Ah, que j'ai été un méchant conseil. Ô mon Dieu, pardonne-les-moi et me fais miséricorde, s'il te plaît. » Tous les auteurs directement responsables de la Saint-Barthélemy moururent de mort violente, à une exception près, la reine-mère. Mais elle vécut assez longtemps pour voir échouer lamentablement tous les projets qu'elle avait conçus. Le cardinal de Lorraine fut assassiné en prison et Henri III, le dernier rejeton de la famille, tomba sous le poignard d'un meurtrier comme Knox l'avait prédit. Ce roi se montra encore plus implacable que ses frères. Sous son règne, les guerres de religion continuèrent à sévir, si bien que la France souffrait horriblement et payait cher l'acharnement de ses souverains contre les enfants de Dieu. Au dire d'un contemporain, les fermes et quasiment tous les villages étaient inhabités et déserts. Les paysans cessaient même de labourer. Affamés, ils se soulevaient. Les routes étaient effondrées, les ponts coupés. Dans les villes, toute industrie et tout commerce avaient péri. Henri IV, roi de Navarre, qui succéda à son cousin Henri III, mit tout en œuvre pour réparer ses maux. Ce fut un des monarques des temps modernes. Élevé dans la religion réformée, comme on l'a vu, il manqua malheureusement de la force de caractère nécessaire pour rester fidèle aux enseignements qu'il avait reçus de sa mère et crut agir pour le bien de la France en embrassant le catholicisme, estimant fâcheux pour le pays que le roi professât une religion autre que celle de la majorité de ses sujets. Son cœur, sans doute, ne fut jamais franchement catholique, mais ses convictions n'étaient pas bien arrêtées ni bien profondes. Ami du plaisir, il supportait avec peine l'austérité du régime calviniste. Son âme n'était pas assez élevée pour sacrifier ses intérêts à ses croyances et sa conscience trop accommodante pour ne concilier les uns avec les autres. Il méprisa l'exhortation de l'Apocalypse 3, verset 11, « Tiens ferme ce que tu as ». Le roi n'oublia cependant pas ses amis co-religionnaires tout en cherchant à pacifier le royaume. Il ne voulait pas le faire à tout prix, estimant que chacun des partis en présence devait tolérer les autres. C'est dans cet esprit qu'il promulgua, en 1598, le célèbre Édit de Nantes, le premier acte par lequel les réformés reçurent enfin la reconnaissance légale de leur existence. En voici les principales dispositions. Ils obtenaient la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit élémentaire pour nous, mais qu'ils n'étaient pas au 16e siècle, de croire selon leurs convictions personnelles, sans être astreints au même culte que le souverain et le reste de la population. Ils pouvaient pratiquer librement leur culte dans les châteaux des seigneurs ou justiciers et dans une ville par bailliage. C'était là une liberté bien limitée. Les seigneurs aux justiciers étaient ceux qui avaient droit de vie et de mort sur leur sujet. Le roi, qui prétendait que cette prérogative devait lui appartenir à lui seul, cherchait à diminuer leur nombre. Puis, dans les bailliages, souvent très étendus pour beaucoup de personnes, il fallait un déplacement considérable pour se rendre dans la seule localité où le culte était autorisé. Néanmoins, les réformés ne pouvaient qu'éprouver une vive reconnaissance envers Dieu de ce que le principe, au moins, du culte collectif fut admis. Les réformés recevaient le droit d'exercer des charges publiques, la magistrature entre autres. On rendait ainsi hommage à l'intégrité généralement reconnue de la plupart d'entre eux. Leur influence allait s'étendre aussi. Enfin, ils recevaient une centaine de villes dites places de sûreté, où ils pouvaient se réfugier en cas de trouble et tenir même tête aux troupes qu'on enverrait contre eux. Avantage considérable, mais qui ne manqua pas de se retourner à leur désavantage. En effet, la résistance qu'ils purent opposer aux ordres royaux risquait de les faire taxer d'insubordination du moment qu'ils pouvaient résister à l'autorité légalement et à main armée. Néanmoins, l'édit de Nantes marque pour les réformés une accalmie bienfaisante. Dieu leur accorda de la sorte une période de repos au cours de laquelle ils purent se ressaisir et affermir leur foi. La situation qui leur était ainsi faite leur permit également d'acquérir une belle prospérité matérielle. L'ennemi se tenait aux aguets et, moins d'un siècle plus tard, il trouva là un prétexte pour déchaîner à nouveau contre eux des persécutions terribles. Alors, j'ai mis trois applications. La première, apprenons que nous devons en toutes circonstances faire confiance au Seigneur lui-même pour notre protection. Les compromis avec la politique amènent toujours des résultats désastreux. Deuxième application, observons la justice rétributive du Seigneur. Ceux qui ont promu et pratiqué la violence sont morts de façon violente ou terriblement misérable. Troisièmement, ouvrons les yeux sur la méchanceté épouvantable, donc qui s'illustre bien par le massacre de la Barthélemy, des princes catholiques et du pape lui-même. Que le Seigneur soit béni, loué et adoré pour l'avancement constant de son royaume, malgré les diaboliques machinations de ses ennemis.